par rapport à l'aspect doctrinal de la vie charismatique, vous allez vous rendre compte que le discours de la foi, le discours de l'Église est d'une clarté incroyable. Amen. Sur toutes ces histoires, toutes ces questions de vie charismatique, c'est évident que l'Église n'a découvert et n'a commencé à penser les choses du point de vue catholique qu'à partir de 1960, entre 60 et 61. Ce que je vous propose comme théologie ou doctrine catholique des charismes, vous imaginez peut-être pas, vous retrouvez dans la période patristique, dans la période des pères de l'Église, on va dire en gros, entre, on enlève le Nouveau Testament, ok? Entre la fin du 1er siècle jusqu'en, on va dire, jusqu'au 4e et 5e siècle, vous retrouvez surtout le 4e siècle avec quelques docteurs très très importants comme Saint Augustin, Saint Ambroise de Milan, Saint Cyril de Jérusalem. Vous retrouvez une doctrine très précise et très claire des charismes. La raison est simple. Dans les diocèses et dans les évêchés de ces évêques-là, on exerçait le ministère charismatique normalement. Le père Bentivegna, qui vit en Sicile, qui est un jésuite italien de 80 ans, mais un homme complètement fou de Dieu, un gars complètement shooté au Saint-Esprit tous les matins. Le père Bentivegna a fait, et il, c'est un patrologue, un spécialiste de la théologie des pères de l'Église, il a passé, depuis qu'il a été baptisé du Saint-Esprit, en gros, les 30 dernières années, à chercher partout les pépites de l'expérience charismatique dans l'Église primitive et dans la période patristique, dans la période des pères de l'Église. En gros, on va dire entre la fin du 1er siècle et le 5e siècle, jusqu'en gros au concile de Nicée, hein, le premier concile de Nicée. Eh bien, c'est incroyable. C'est d'une richesse absolument extraordinaire. Mais on a bien vite oublié et on est passé à autre chose. Et puis on était coincé quand même parce que l'expérience du Saint-Esprit a emmené l'Église à pouvoir de nouveau être au clair elle-même par rapport à ça. La question que beaucoup de théologiens, des confrères à moi, hein, dans la recherche théologique me posent, c'est de dire mais il n'y a pas de repère, il n'y a pas de référence dans l'histoire de l'Église pour chaque truc. Je dis non, parce que le Saint-Esprit fait toutes choses nouvelles. Donc ça veut dire que du point de vue et de l'expérience, mais aussi du langage de la foi que l'on n'a pas, ben il fait toutes choses nouvelles. Dans les années 60, en gros, entre 67 et 68, on se disait, mais comment on va appeler ce nouveau mouvement dans l'Église? Alors on a commencé par appeler ça le pentecôtisme catholique. Alors ça sonnait pas très bien. On s'est dit, d'accord, on va dire renouveau charismatique. D'accord? On était gênés par le langage. Pour se dissocier ou se distinguer des protestants évangéliques et pentecôtistes qui parlaient, selon l'expression biblique, du baptême du Saint-Esprit, on s'est dit, nous quand même on est catholiques, on va prendre un peu de distance avec ça. On va dire exfusio, comme disaient les pères de l'Église, on va dire effusion du Saint-Esprit. Donc on a dit, ah, la marque catholique de cette affaire-là, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Mais ça change rien à la réalité. D'accord? Aujourd'hui, on se bat avec une métaphore qui est une métaphore théologique. Celle, par exemple, de la troisième vague. On dit, ouais, mais c'est du jargon purement pentecôtiste ou évangélique. Enfin, surtout évangélique. Eh ben, s'ils ont trouvé avant nous, ayant l'humilité d'accueillir, c'est tout. Le pape Jean-Paul II dans Utunum Sint, cette lettre encyclique sur l'unité, dit justement que nous devons puiser de toutes les traditions, non seulement l'expérience de la foi, mais aussi la doctrine. Il nous faut apprendre à être tout petit et humble pour savoir que Dieu peut parler par n'importe qui. Même par des évangéliques. Mais bien sûr, vous vous souvenez de Nombre 22, lorsque pour prophétiser contre ce prophète païen qui venait maudire Israël, eh bien, Dieu a prophétisé par l'ânesse de Balaam. Je me dis, c'est incroyable ça. Donc ça veut dire Dieu peut nous parler par n'importe qui, même par des gens qui ne sont pas dans le coup pour l'instant, qui peuvent nous parler de la part de Dieu. Il est souverain, le Seigneur. Il est libre, notre Dieu. Amen. Et nous devons aspirer à une telle liberté. Ça ne veut pas dire à n'importe quoi. Donc on n'a pas nécessairement le jargon. Donc ce que je vous dis là, on a à peine une quarantaine d'années d'expérience et de méditation, de réflexion, de recherche sur la question.